Alors ce shiur est dédié à l'affranchissement de Jaffan, c'est Netanel Yeshua ben Aureli Avigail. J'ai lu un passage de Chot El Bavot qui, je pense, est bien. Enfin, tout le livre est excellent, mais ce passage, à mon avis, il parle beaucoup. Et je voulais vous le lire. Alors, c'est dans Char HaPreshut. Char HaPreshut, c'est le portail de la Preshut. La Preshut, c'est l'ascétisme. Et Mitzvah de la Torah, Kedoshim Tiyu, vous serez saint. Rouven m'a posé la question il y a quelques jours, comment faire pour arriver à la Kedusha, la sainteté. Ça sera un peu la suite de cela. Parce que la sainteté, évidemment, comme dit Rashi, chaque fois qu'on s'éloigne de la Herva, on s'éloigne des interdictions sexuelles avec les femmes, c'est tout ça, s'éloigner du monde féminin. Mais aussi une Kedusha qui est dans la relation avec les autres, arriver à être quelqu'un sur qui repose la présence divine. Quelqu'un de saint, alors Hachem est avec lui. J'imagine qu'il sent cela, et la sainteté c'est une chose qui se sent. Am Israël a réussi à traverser 3000 ans d'histoire, c'est parce qu'en tant que clan, en tant que collectivité, ils sont véhicules de la présence divine. Et si une personne se sanctifie beaucoup, alors elle devient un particulier, n'a pas la présence divine qui repose sur lui, mais s'il se sanctifie beaucoup, alors oui. C'est ainsi qu'on verra des gens qui ont Ruach HaKodesh et ils ont des dons non seulement de clairvoyance. Donc il y a des gens qui ont non seulement des dons de clairvoyance, mais Rabbi Tzadok Shaul disait, ça c'est facile. Bon, c'est des années que j'essaye, j'arrive, je vois un très mauvais flair, d'accord, je vois tout de travers. Il dit c'est facile. Il dit ce qui est dur, c'est changer un décret. Arriver par la prière, toi tu vois maintenant quelqu'un, tu vois, il a encore quelques mois à vivre. Ouais, malade, machin, tout ça. Maintenant, arriver à dire un mot à Hachem écoute, et change de décret. Ça, il faut beaucoup plus de puissance, dit-il. Ça provient d'une proximité d'Hachem, d'une présence divine qui est sur nous, ou sur la personne en tout cas qui est capable d'être à ce niveau-là. Alors, ce n'est pas le coma des mortels. Le coma des mortels, sont au niveau de ce qu'il faut faire. Mais la Torah nous ordonne de faire plus. Kedoshim, vous serez saints. Ça veut dire commencer à monter à des niveaux qui ne sont pas forcément nécessaires par la Torah. Je n'ai pas le droit, par exemple, de manger des aliments non cachers. Mais si c'est cacher, d'après la loi stricte, d'accord, on va dire, s'il n'y a pas dans la mitzvah, cette 613e mitzvah, on va dire, d'accord, d'ailleurs 612 mitzvot, il n'y a pas d'interdiction de faire un grand festin tous les jours, merguez, entrecôte, côtelette, mouton, bocha, boutargue, caviar, cachère, saumon, tout ce que tu veux, les meilleurs vins du monde en cachère, tout est super cachère, et toi tu t'éclates. Ou du temps la bigamie était permise, c'est marqué un roi ne peut pas avoir beaucoup de femmes, que 18. Toi t'es pas roi, ben 180, d'accord. Et tu vis tout à fait normal, c'est toutes tes femmes avec Ktouba, machin, tout ça, t'as les moyens, d'accord. Du point de vue de la Torah, des 612 mitzvot, c'était inatteignable. Il y a, hélas, dira le corps qui aime les plaisirs de ce monde, dira, il y a une 613e mitzvah qui dit « Kedoshim Tiyu ». Plus que cela, le Ramban explique, c'est le centre de toute la Torah. C'est la base de toute la Torah, et toutes les 612 autres mitzvot sont des expressions de cela. Mais c'est la base de tout, se rapprocher de Dieu. La tendance, elle est, comme j'expliquais maintenant, de croire que la Kedusha, ce n'est que s'éloigner des plaisirs terrestres, ce qui est vrai, qui sont en gros la nourriture, l'argent, les femmes, ça marche ensemble, d'accord? L'alcool, les bons vins, etc., les belles voitures. Il y a plus que cela. Et là, le Chot El Bavot va nous citer quelques qualités nécessaires du Parouche. Parouche, c'est l'ascète, donc celui qui veut se sanctifier. Anagot ele te'e chassid echad kach. Les actions de quelqu'un qui est ascète, comme ça a expliqué un chassid. Un chassid, c'est un pieux. Haparous simchato al panav vevlo belibo. Celui, donc cet homme-là qui se sanctifie, la joie est sur sa face et le deuil dans son cœur. Ça veut dire que, comme explique ici un commentateur, il reçoit tout le monde avec un grand sourire, extérieurement, et je dirais aussi intérieurement, j'expliquais après parce que c'est marqué, intérieurement il est en deuil, mais intérieurement aussi il est en joie, il n'y a pas une joie, quelqu'un ne peut pas être déprimé et faire un grand sourire à tout le monde, ce n'est pas possible. Il est joyeux, il est heureux, et il exprime ce rayonnement de bonheur aux gens, il est gentil avec eux, il sourit, il est à l'écoute, mais à l'intérieur, il a une petite partie de lui, et là c'est un danger, parce que si quelqu'un se met à être trop conscient des péchés qu'il a fait, trop conscient, il tombe en déprime, et ça c'est la dernière chose, c'est la pire des choses qu'il puisse y avoir, d'accord ? La déprime, ça veut dire on quitte tout. On n'a plus envie de servir Dieu, on n'a plus envie de prier, on n'a plus envie d'étudier, on n'a plus envie de rien. C'est très mauvais, c'est l'antithèse de la sainteté. Néanmoins, il faut intelligemment savoir qu'on n'est pas parfait, et qu'on a aussi des péchés, des choses qu'on doit encore arranger, et on est quelque part triste, qu'on n'est pas encore parfait au point qu'on vise. Mais une tristesse contrôlée, c'est-à-dire, je ne suis pas insouciant, je suis souciant de cela. Ça me soucie, mais dans ma vie je suis heureux. Pourquoi je suis heureux? Parce que je me soucie de mes problèmes. Le fait d'être, entre guillemets, en deuil, ça veut dire de se soucier des problèmes qu'on a, de la perfection à laquelle qu'on veut atteindre et qu'on est en continuel combat contre nos mauvais traits de caractère, c'est une source de joie. Ça doit être une source de joie. Donc on doit être en joie, extérieurement, à l'intérieur, être, savoir, ne sois pas certain que tu rentres au paradis, bosse. Hachavat hadat shelo higdola me'od. Sa conscience des choses est très grande. Les commentateurs expliquent, vu qu'il n'est pas attiré par les choses de ce monde, l'argent, le pouvoir, la jalousie, la concurrence, la vengeance, ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est un serviteur de Dieu, donc il n'a pas le temps d'avoir la tête occupée à toutes ces choses-là qui prennent la personne. Quelqu'un, quand il est en situation de concurrence, d'appât d'argent, de recherche de plaisir, de business, d'accord, et encore, et tout qui m'a fait, et en haine, et en bagarre, il n'a pas le temps de penser à Dieu. Donc il ne peut pas maintenant développer sa conscience des choses, où est la vérité, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Cette personne-là dont on parle, ce tzaddik, lui étant éloigné des choses de ce monde-là, il a une vue juste, il a une conscience de la réalité importante des choses. Vushfal ruach me'od, il est extrêmement humble. Expliquent les commentateurs. Étant donné que toutes les choses de ce monde-là n'ont pas d'importance pour lui, d'accord, quelqu'un de orgueilleux, il veut une belle voiture, une belle maison, il veut aussi une belle femme pour la galerie, il veut un nom, il veut une maîtrise. Lui, ça n'intéresse pas tout ces choses-là. Pour lui, c'est le monde du mensonge. Ça n'intéresse pas. Il n'a aucun problème à se faire tout petit, 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 parce que pour lui, c'est burk, d'accord ? Tout ce monde, tous ces plaisirs dont parle la personne orgueilleuse, pour lui, ça n'a aucun poids. Donc, extrêmement humble. Il ne pense pas à montrer à tout le monde à quel point il est grand. Ça ne l'intéresse pas de montrer qu'il est grand. À quel point il a raison. Il peut avoir tort. À quel point il n'est pas dans cette concurrence. C'est un grand travail. Volontaire sin'a, il n'est pas haineux, il ne garde pas la haine contre quelqu'un. Quelqu'un a péché contre lui, il pardonne. Il n'est pas envieux de ce qui ne lui appartient pas. Encore une fois, ça n'intéresse pas. Il voit une belle voiture, il voit une belle maison, il voit une belle femme, ça lui appartient. Il regarde même, c'est pas question. Je suis en concurrence avec les gens. Moi, je suis avec Hachem, ce qu'il m'a donné, c'est ce que j'ai besoin. Chacun, il a bien compris, dans sa grande conscience des choses, que chacun reçoit, dans sa vie, les outils nécessaires pour faire son tikkun. Je ne vais pas maintenant aller envier les outils de quelqu'un d'autre, parce que ces outils ne sont pas bons pour moi. Et moi, ce que j'ai comme outil, c'est les meilleurs outils que je peux avoir pour faire le tikkun de ma propre personne. Il faut que quelqu'un, hein, il se casse la tête, pour qu'en Torah, on va dire, voilà. Et je suis bouché. Il voit quelqu'un qui arrive, ça fait 2 ans qu'il est Charles Menninger, l'autre il arrive en 2 mois, il fait première classe, 1 mois, 2e classe, 3, 5, 6, 7, après il va à un grand échiva, au bout de 40 ans, c'est le dollar d'or. Et lui, toujours, après 40 ans, il est passé chez Rav Haddad, d'accord, qui aura 80 ans à l'époque. Alors il peut rentrer en déprime. Mais mon cher ami, t'as pas compris. Hachem maintenant, il te demande pas d'être le grand de la génération, il te demande avec tes outils de faire ça. Et ça, si tu réussis, t'es au même niveau exact que le grand de la génération qui a réussi. S'il a réussi, parce qu'il y a des chances que toi tu réussisses et lui pas. Plus tu as un grand potentiel, plus on exige de toi beaucoup. Plus qu'un petit potentiel, quelqu'un qui doit arriver à 10, ben, s'il est arrivé à 9,9, ben, c'est très bien. À 10, c'est excellent. Quelqu'un qui doit arriver à 1000, il est arrivé à 900, et ben il lui manque beaucoup plus. Il lui manque un dixième. L'autre, il lui manque un centième. Ou peut-être rien. Tu voulais dire.
On ne peut pas savoir comment se cacher maintenant.
On ne peut pas savoir. Non, c'est une seule chose. Si moi, maintenant, je n'ai pas un don que lui a, des biens que lui a, toute chose spirituelle ou matérielle que l'autre a, moi, je ne les ai pas, je ne dois pas l'envier pour cela. Spirituel aussi, ça arrive au même. Ça arrive au même. C'est marqué clairement. La Gemara, Echad Amarbe, Echad Amamit, Bulva, Shechaven, Nebo, Shemaim. Un qui l'est beaucoup, on parle en Torah, étude de Torah. Un qui a étudié beaucoup, un qui a étudié peu, l'essentiel, c'est la seule chose qui compte, est-ce qu'il a fait l'Hashem Shamaim. Est-ce qu'il a fait maintenant, de façon authentique, vraie, par amour de Dieu, parce que Dieu l'a ordonné, pour le bien du monde, pour réaliser la parole de Dieu. C'est ce qui compte. Ça veut dire que. Ce que tu as reçu, c'est pour ton tikkun à toi. Ça sert à rien que tu aies plus, ni moins. Personne ne sait ce que c'est son tikkun, mais je sais que les outils que j'ai, c'est ce qu'il me faut pour mon tikkun. Donc de quoi je me soucie? J'ai envie de ce qu'un autre il a.
Je crois que c'est le gars de Vénéi qui me dit que où les points où tu as de la difficulté dans ces points-là, et ben c'est là où tu aurais réparé, pour savoir ce qu'on.
Au niveau des midotes, quelqu'un maintenant, il est attiré par un certain péché. C'est là qu'il a un travail à faire.
Pas au niveau du limoud, c'est pas là.
Au niveau du limoud, quelqu'un il a envie d'une certaine chose, c'est là aussi ce qu'il doit étudier. Oui, elle a marché pour Hafez. Une personne étudie que ce qu'elle a envie. C'est-à-dire qu'on vient sur Terre pour étudier les choses que notre âme a besoin, dont elle est manquante dans l'âme là-bas. Par exemple, Rabbi Chaim Vital, qui a écrit dans toute la Kabbalah de Rabbi Noari, c'est écrit quelque part qu'il était un Gilgul du Magid Mishneh. Magid Mishneh, c'est un Rishon, on ne connaît pas son nom et prénom, on connaît le nom de son œuvre. Magid Mishneh, c'est un des plus grands commentateurs de Maïmonide. Et le Rav de Rabbi Vital, donc Rabbi Noari, lui a dévoilé que tu étais avant, dans Gilgul avant, tu étais Magid Mishneh, tu n'as pas fait de Kabbalah, tu n'as fait que du Pshat, maintenant il faut venir faire que presque Kabbalah. D'accord? Pas que, mais presque que Kabbalah. Chacun en fonction de quoi il a une attirance super forte de faire Bava Kama, par exemple. D'accord ? C'est-à-dire qu'il est manquant de cette massachette, de ce traité-là. Oui.
Pourtant, on nous dit que si il y a une massachette, par exemple, qui nous plaît moins, on nous dit qu'il ne faut pas étudier la Torah parce qu'on a envie, parce qu'il faut étudier.
C'est vrai. À notre niveau, à nous, aujourd'hui, où on est manquant de tout, il nous faut des bases. D'accord ? Alors, il faut des bases dans les Ekin, dans Nashim, dans les choses. Ce sont des goulots, on ne peut pas faire un passage dessus. C'est des trucs qu'il faut savoir, tu ne peux pas. Quelqu'un, on va dire, on va transposer ça dans le niveau du chol, au niveau profane, d'accord. Quelqu'un, il veut. Un qui veut être médecin, l'autre qui veut être avocat, l'autre qui veut être plombier, pâtissier, d'accord. Tous doivent apprendre à lire, à écrire. Pas dire maintenant. Quelqu'un dit non, moi je veux étudier de A. Jusqu'à la lettre A, B, C, D, E, F, G, H, I. Voilà, jusqu'à I. 10 lettres, pas plus. Ah non, moi je préfère les dernières, sont plus sympas. Y, X, Z, d'accord, c'est plus joli, d'accord. Mon cher ami, tu vas prendre les 22 lettres. Il y en a combien en français? 24, 26. 26, enfin, en hébreu, il y en a 22. D'accord, tu vas prendre les 26 lettres. Il est quoi le presto? Parce que c'est les bases. Donc au niveau des bases, on va tout apprendre. Après, on va commencer à monter. Chacun, tu vas que dans le monde, les gens vont en fonction de leur attirance vers des domaines différents de toi. L'homme est sa père, Bignoto, chez l'Aferhad. Jamais il ne dit du mal sur qui que ce soit. Et sur quoi que ce soit. Le Rodabot raconte un autre endroit ici de son livre, qu'un jour un chassid, un pieux, se promenait avec son élève, et ils sont arrivés près d'une charogne qui puait terriblement. Alors l'élève a dit, ah, qu'est-ce qu'elle sent mauvaise cette charogne. Le chassid lui a dit, mais regarde quelle belle dent blanche elle a. Elle a des belles dents blanches. Bon, on dit, regarde pas la moitié du verre vide, regarde la moitié du verre rempli, regarde le bien qu'il y a partout. Quelqu'un qui voit le mal partout, c'est qu'il est mal en dedans. Donc on a une tendance à voir le mal pour descendre les gens, pour critiquer, pour voir en quoi moi je suis mieux que lui. Eh, t'es à côté de la plaque. Encore une fois, ce que je vous dis maintenant, c'est un niveau super, super, super et à la puissance balèze, d'accord pour... Mais c'est sympa d'avoir une bonne direction, comme ça, ça peut nous faire travailler un peu à notre petit niveau, nous, où nous sommes très loin de cela. Quelqu'un de positif, et c'est un travail, commencer à avoir le positif chez les gens. Et il va le dire. Il dira ça dans la suite. L'homme d'Aberklal, Odot Ben Adam, il ne parle jamais sur les autres personnes, en mal. Mais en bien, bien sûr, on peut dire du bien sur les gens, c'est conseillé. Umoef Bagdoula, il a le dégoût de la grandeur. La grandeur, on parle de la célébrité.
Excusez-moi, on peut dire du bien aux gens, pas sur les gens.
Sur les gens aussi, pourquoi pas.
Ça les amène le chemin.
Il y a des lois là-dessus. Si tu dis maintenant devant un public trop de compliments sur quelqu'un, voilà, par exemple, je dis Menachem, nouvelle Abba Yeshiva, extraordinaire, Saint Tzadik, jamais vu ça en 20 ans d'études ici. Après le cours, les gens vont au repas en bas, t'as vu ce que Rabbi a dit sur Menachem. Moi, j'ai vu le jour. Hein, je ne sais pas si elle arrive au courant, mais il y a ça, et ça. Et comment cela sonnera. Donc, moi, en disant maintenant ce compliment, hein, parce que c'est trop exagéré. Mais si je dis, Menachem, c'est un bon élément de la yeshiva, ça passe, ça va, c'est pas trop exagéré. Ça, dans ce cas-là, c'est permis et conseillé. Il y a un autre cas aussi dans on appelle ça aussi Avak Lashonara, c'est la Lashonara des Rabbanan, c'est si on est devant un grand public. On dit des compliments, il est certain que dans le grand public, il y a des ennemis de cette personne. Parce que les gens ont toujours des amis et des ennemis, d'accord. Alors, quand c'est en cercle restreint, ça va. Mais si dedans, tu es dans 500 personnes, tu dis maintenant, je vais dans ton quartier maintenant en France, et je dis, Menachem, c'est un des bons éléments de la yeshiva, c'est clair que parmi les 500, il y en a un qui ne t'aime pas, il va commencer par aller lâcher un drap sur toi. À moins que tu sois, Bezant Hashem, le Gdolador, le grand de la génération. Que là, on sait très bien que lui, celui qui parle sur lui, c'est lui qui se plante. Mais si tu es un homme normal, parmi 500 personnes, il risque d'avoir quelqu'un qui te hait et qui parlera mal en toi. Donc, mais si c'est de façon équilibrée et un public équilibré aussi, c'est permis et conseillé. Il a la haine des positions donnant un pouvoir, d'accord ? Directeur de.
Pourquoi la haine ?
La haine.
C'est pas
La haine. Tu te rends compte que être directeur du qu'est-ce que ça engage comme problème ?
C'est pas la haine, c'est-à-dire que pourquoi ?
La haine de cela, mais il veut surtout pas.
Pourquoi les Gdolador, il y a la haine de ça ?
Hein ?
C'est pas pour c'est vrai, ça.
Il n'y a aucun Gdolador au monde qui est directeur de quoi que ce soit. Un directeur, il ne sera jamais un Gdolador.
C'est important. Hein ?
Très important, mais il n'a pas le, j'ai bien dit, le titre, d'accord ? Le titre, le...
Un statut,
non, t'as un truc de directeur, il a une position,
fonction,
très bien. Il n'a pas la fonction de directeur. Lui, c'est un homme qui est dans son coin du la Torah jour et nuit. Par la force des choses, les gens viennent prendre conseil chez lui. Il donne des conseils, ça marche bien, les gens viennent. Ok, mais c'est pas qu'il est directeur de. Directeur signifie, tu dois imposer ce que tu penses à d'autres. Tu dois les diriger. Et des fois, tu peux te tromper dans comment tu juges les choses. Tu es en concurrence avec le directeur de la boîte d'en face, donc il y a de la générale, donc la concurrence, donc des machins, un truc. Qu'est-ce que lui besoin de ça ? Être directeur, être grand sadique, je ne dis pas qu'il ne faut pas être directeur, d'accord ? Moi, même, parfois, on m'a mis directeur d'une yeshiva. Mais un vrai kadosh et parouche, il fuit cela. En plus, quand quelqu'un est directeur, il a une carte. Directeur de... D'accord.
Il est célèbre, le Gadolador. Il a marqué justement qu'il fuit la célébrité.
Ah, il fuit. Oui, bien sûr qu'il fuit. C'est marqué que celui qui recherche la célébrité le fuit. Et celui qui fuit la célébrité les poursuit. Les gdolim, mais il fuit la célébrité, mais la célébrité les poursuit. C'est pas qu'ils cherchent. Les gens célèbres, ils fuient, ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça. Je me souviens lorsque le mari de ma cousine s'est marié, le Rav Sofer, Yaakov Sofer, un des grands Talmid Chachamim Svarad de la génération, petit-fils du Rav Chaim Sofer, celui qui a écrit Yaakov Chaim Sofer, celui qui a écrit le Kafa Chaim. Donc là, il y a le Shiva, et le mari de ma cousine, donc il est là-bas. Donc au mariage, le Rav vient et danse avec lui. Et il est fort, monsieur important, grand, fort, comme ça. Et il se tient les mains comme ça, d'accord, doigts dans les doigts comme ça, et il danse comme ça. Et le type au micro dit, et maintenant voici le, est arrivé, le Gdolador, le Gaon, et tous les titres, la crème, d'accord, le Rav, Yaakov, Chaim Sofer, Shalita. Mon cousin m'a raconté qu'il a, il a ses doigts, ils ont écrasé. Il a fait comme ça. Pourquoi les gens parlent comme ça? Il ne montre rien. Mais il a senti la tension. Il a écrasé les doigts. D'accord? Ça dérange. Mon Chavruta, une fois, était allé voir le Rav Benson, il est très proche du Rav Benson à Bachoul, mon Chavruta à l'époque. Et le Rav Benson était un peu. Pas déprimé, bon, sa femme était très malade, tout ça. Il dit, Kvodara, mais. Le Rav, il est un des grands de la génération, c'est Psakim, tout le monde écoute tout ça. Il m'a dit, c'est comme si un serpent l'avait mordu. Il a sauté en arrière comme ça. Comme si un serpent l'avait mordu. Des compliments. Qui de nous saute comme ça quand il y a un compliment? Ah, c'est, rappelez, j'ai pas bien entendu, d'accord?
Ça peut être positif un compliment, c'est pour la personne.
Pour nous qui sommes des gens vides, qu'on a besoin de se remplir par les compliments des gens, oui. Mais quelqu'un qui est déjà construit, il n'y a pas besoin des autres. Et au contraire, vu qu'il est, il est quelque part, il peut être sensible à ça, il sait que c'est le monde du mensonge, parce qu'un compliment, le cavote, c'est du mensonge, c'est pas ça qui fait de toi un grand, ce que les gens disent, surtout pas. Mais quelque part, on est sensible à ça, et après, on fait aussi, on commence à agir aussi en fonction de ce que les gens vont dire, ça pollue tout ce qu'on fait, ça pollue. T'étudies la Torah maintenant, d'accord? Personne ne saura ce que tu as étudié, jamais. T'as une étude qui est pure. Tu sais qu'un jour, quelqu'un saura, tu pourras dire que tu as étudié ça, ou que tu as bien compris, etc. Déjà, ton étude n'est pas chez le chaman. Il y a déjà, c'est un peu pollué. Ça dérange. Umeyushav bedaato. Il est stable dans sa conscience. Quelqu'un de pas construit, il prend des décisions rapidement. Après, il regrette. Il y a des paroles trop vite. Et après, il regrette. Une colonne de marbre. Il entend, il écoute. Et quand il dit, c'est ça, ce ne sera pas autrement. Zohar et Akol se souvient de tout. Je ne sais pas qu'on arrive à cela. Modé à la Emet. Reconnaît la vérité. Si la Torah dit, j'ai eu tort, t'as raison. Combien c'est beau, combien c'est grand. Je raconte une très belle histoire. Un des grands générations que nous avons eu, qui est décédé il y a une vingtaine d'années, s'appelle le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Son fils est d'ailleurs un des nouveaux grands de la génération, le Rav Shlomo Auerbach. Shalita, son père, Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal. Donc c'est un très grand Talmid Chacham. Il étudiait dans son coin. Et un jour, il a une proposition. On cherchait un Rosh Yeshiva pour une, à l'époque, c'était une des plus prestigieuses Yeshiva d'Israël, Kol Torah. Être le Rosh Yeshiva de Kol Torah, c'était bon. Alors, donc, il y a plusieurs rabbanim qui étaient candidats à être le Rosh Yeshiva. Et pas être directeur. Directeur, il faut s'occuper de l'argent. Rosh Yeshiva, c'est tu viens, tu enseignes, c'est tout. C'est de la Torah pour enseigner la Torah. Bon. Ça pouvait l'intéresser. Et il y a un examen. Évidemment, l'examen, c'est les super grands Talmid Chachamim qui viennent et qui voient à quel point il est Talmid Chacham. Il fait l'examen, il rentre à la maison. Sa femme lui dit, alors comment ça t'a? Il dit, je pense pas qu'ils vont me prendre. Pourquoi? Je suis un peu embrouillé, il me pose une question, je ne sais pas si je peux répondre. Je réfléchis, bloqué. Je pense pas que c'est bon. Pas pour moi, Minashamayim, tout est pour le bien. Une heure passe, toc toc toc, on tape à la porte, délégation, tous les rabbinim de Kotora qui viennent. Kvodara, nous sommes heureux de vous annoncer que vous avez été choisi pour être Rosh Yeshiva de Yeshiva de Kotora. Mazal Tov. Et... Mais je ne comprends pas. Mais j'ai fait un examen raté. J'ai dit, on me pose une question, j'ai dit que je n'ai pas de réponse. C'est exactement ça. Cette question-là, et il n'y a pas de réponse. On ne la connaît pas, nous non plus. Maintenant, d'autres ont essayé de donner des réponses, etc., comme ci, comme ça. Quand on a vu que vous êtes prêt à dire « je ne sais pas », que vous êtes émet, c'est quelqu'un de vrai. On veut un Rosh Yeshiva comme ça. Il a dit après, j'avais quelques petites réponses. Je pouvais donner quelques réponses, mais je n'étais pas entier avec elles. Donc je préfère ne rien dire plutôt que de dire une réponse qui n'est pas totalement vraie. On veut une vraie Torah comme ça. Combien c'est grand ? Combien c'est grand ? Donc, par rapport à ton prochain, par rapport à ta femme, par rapport à ton fils, dire « t'as raison, je me suis trompé ». Combien il faut casser de l'ego ? Tu sais très bien que t'as tort. Comment ça, ici, il a échoué avec le Chavruta ? T'as un plat tordu. Mais, et t'essayes, et kvetch, on appelle ça, kvetch, d'accord, essaye de le... Que pour pas que ton ego doit supporter et dire, tu baisses la tête, c'est toi qui as raison. Devant quelqu'un de plus petit que toi. Encore à égalité, ça va. Des fois, passer un type plus petit que toi. Modèle à émettre, c'est un travail. Combien c'est beau. Baishan Mehod, extrêmement timide. Tout dans l'humilité. Venogorem Nezek Lacherim, il ne fait pas de dommage aux autres. Chazonich a dit, toute ma vie, mon effort le plus grand est arrivé à faire attention de ne jamais blesser quelqu'un d'autre. Faire Shabbat, tu fais attention, tu peux. Prier avec Kavana, avec attention, tu fais à tout te concentre, tu peux. Mais faire attention de jamais blesser quelqu'un, c'est de l'acrobatie. Les gens sont différents. Tu lui fais, tu n'as pas répondu exactement. Je ne sais pas. Des gens, il y a des sensibilités différentes. Et les choses sont très rapides, très délicates, très sensibles. Et sans s'en rendre compte rapidement, on peut blesser quelqu'un. Et des fois, une personne blessée peut rester des années, toute sa vie, avec une blessure à l'intérieur. Il n'oublie pas. Il a été touché. C'est des choses, des fois, qui sont irréparables. Combien de travail il faut faire pour... Combien de travail pour arriver à être à l'écoute de l'autre et ne pas le blesser. Je ne parle pas maintenant des gens comme Ella Sena, tellement aujourd'hui grossiers, des animaux, d'accord, le rapport avec l'autre, la nullité vraiment animale. Je parle de gens maintenant déjà qui sont des gens bien. Mais allez dans le détail. Et les grands de Torah, messieurs, tous les grands de Torah, ils étaient spécialistes là-dedans. Ils étaient des super lamdanés, des super grands intelligents dans les méandres de la halakha et appliquaient cette intelligence à comment faire maintenant pour mieux faire plaisir, respecter, être à l'écoute d'une sensibilité, d'une personne. Combien ? On a, je vous dis, moi je suis un nul là-dedans, il y a un travail énorme à faire là-dedans. Énorme. Et certainement, être ici dans la communauté, dans une communauté, c'est clair que ça exige beaucoup. Quand tu es seul à la maison, alors tu es avec les murs, on s'entend, moi et les murs, d'accord ? Avec le vendeur d'un macola de l'épicerie en bas, on s'entend aussi. Bonjour monsieur, au revoir monsieur, ça va. Et dans ta chambre. T'as chaud, tu ouvres la fenêtre, lui il a froid. Tu veux dormir à 11h, lui il veut aller à minuit. Tu veux te lever tôt, il veut se lever tard. 40 000 choses peut y avoir. 40 000 choses. Et après, messieurs, oulalalala, la femme. Que c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus fin, beaucoup plus sensible et beaucoup plus indélébile. Parce que la femme est sensible, elle se souvient. Même si elle pardonne, ça reste. L'argent de Neuerbach, il rentrait chez lui à la maison. Il faisait comme ça. Son élève qui l'accompagne, il dit, ça va, vous êtes pas, qu'est-ce qui se passe? Je rentre voir maintenant la Shrina. La femme, dans la maison, elle est véhicule de la Shrina. Quand on achète un bijou à la femme, il faut penser, dit les livres de Rachid Rochman, penser que tu bijoutes, tu mets des bijoux sur la Shrina. Je rentre voir maintenant la Shrina. Il se préparait à rentrer. Le jour de la mort de sa femme, elle est, le corps est là devant la tombe. La coutume est, on demande Mechila, on demande pardon, tout ce qu'on aurait pu faire. Il dit, je ne demande pas pardon. Parce qu'il n'y a rien à propos duquel je dois dire pardon. C'est un monsieur Emmet, je veux dire pardon, je n'ai rien fait. J'ai toujours été OK avec toi, je te mets rien fait de mal, je ne te demande pas pardon. De quoi je demandais pardon? Je sais qu'il n'y a rien. Je ne te demande pas pardon, je n'ai pas de quoi demander pardon.
Mais ça, elle est mochelle quoi qu'il arrive, alors que...
Elle est mochelle quoi qu'elle arrive?
Oui, c'est vrai.
Mais jamais l'a vu.
Mais c'est notre femme, je veux dire. C'est
et, alors, voilà, et alors? Et
nous
alors?
Une fois qu'on est là, on ne va pas se juger pour comment on s'est conduit avec notre femme.
Hein? Parce que?
Comment on s'est conduit avec notre femme?
Mais bien sûr, numéro 1.
Ah ouais?
Bien sûr, numéro 1. C'est marqué, quelqu'un m'a dit une fois, c'est marqué dans le Char à Kavanot, que le Garba Noiri, celui qui étudie la Torah et sa femme est malheureuse, toute sa Torah va aux clipotes, aux forces du mal. Ben, tu sais pas te conduire, t'es une béhéma, un animal sauvage. Mais c'est pas ça qui, pas qui crie, c'est pas qui tape. Ignorant des besoins de sa femme. Pas à l'écoute des besoins de sa femme.
Ah, mais des fois, elles sont pas claires, parce que...
Ok. Elles ne seront jamais claires dans ce qu'elles veulent. Tu dois deviner, mon cher ami. Eh ben, ok, il faut apprendre à deviner.
C'est quoi, faut faire tous ces... Hein? Toutes ces volontés, faut faire?
Pas forcément, mettre à l'écoute. Être à l'écoute, être à l'écoute.
Et vous dites qu'elle ne pardonne pas, mais si maintenant quelqu'un, après, il change son comportement pour sa femme,
oui.
Elle ne pardonne pas.
Regarde, elle pardonne. Mais sentimentalement, quand on pardonne, c'est avec la raison. Tu viens, tu t'excuses, je me suis mal comporté, je recommence à jamais plus, je m'excuse, excuse-moi. Tu le refais 4 fois, 10 fois, ok, j'excuse, c'est bon. Dossier classé dans la tête, de façon raisonnable. Au niveau des sentiments, elle a eu mal. Dans 5 ans, de nouveau, il y a un truc qui ressemble. Et puis il y a 5 ans, tu m'as fait la même chose! Bien sûr! Mais à tous les cas, ça c'est les cours basiques de Shambhai, d'accord?
Mais bon, après, ça c'est une autre à elle.
Non, mais c'est normal, parce que vu qu'elle est plus. Elle est plus affective, elle est plus au niveau de la sensibilité affective et non raisonnable.
Oui, mais ça se travaille.
Elle a moins d'outils pour travailler sur elle. Donc au moment où il y aura l'énervement, tout ça, tac, le truc de il y a 5 ans revient, et met ça sur le tapis. Le mari dit mais je comprends pas, mais tu, ça n'a rien à voir avec ce qu'on parle maintenant. Qu'est-ce que tu me racontes ça? Ouais, de toute façon, tu m'as dit une fois être idiote. Mais je t'ai offert 4 robes, 3 restaurants, tout ça pour que tu m'excuses, on s'est excusé, je me suis mis à plat ventre devant toi. Et encore, tu me ravages ça sur le tapis. Tu réponds raisonnablement. Elle est dans ses émotions. On peut pas répondre. Oui. On peut rien faire, on s'en s'écrase. Il fallait pas lui dire triple idiote. Bah, au radon,